13h-14h, Sport Campus avec Alain, Nicolas, Louis, présenté par Mélissa.
Rebonjour à toutes et à tous, il est à présent 13h, on est mercredi, ce qui veut dire que vous êtes à l'écoute de Sport Campus, on est en direct, et comme tous les mercredis, on retrouve la fine équipe, notamment avec Alain. Salut Alain.
Salut.
Comment tu vas ?
Nickel.
Et puis on est aussi avec Nicolas, salut Nicolas.
Salut à tous.
Et on retrouve Louis, bonjour Louis.
Salut.
Et aujourd'hui, en guise d'invité, nous accueillons sur notre antenne Pierre Espagnol, ancien milieu de terrain, ancien joueur pro, éducateur, formateur, entraîneur adjoint et dévoué à la suite aux Girondins. On va en parler. Donc ce sera le foot qui sera à l'honneur aujourd'hui une nouvelle fois. Mais tout d'abord, Alain, tu as quelques résultats.
Oui, parce qu'on arrive en fin de saison et donc les résultats vont tomber. Vous vous rappelez la petite Mélie là, qui était venue en touring bâton, qu'on va recevoir la semaine prochaine d'ailleurs avec ses deux petites copines. Elle vient de faire quatrième au championnat d'Europe en Italie en touring bâton. Anthony Touboul, qu'on a reçu aussi en éducateur foot, mais lui aussi, éducateur à Radio Campus, on gagne, puisqu'à 4 matchs de la fin, il est assuré de monter en régional, chose qui n'est pas arrivée souvent au RC Chambéry. Son collègue Cyril Wafi, qui était venu avec lui aussi, qui découvrait une équipe de jeunes à Cestas, et bien se qualifie pour les deux finales de la Coupe des Girondins. Et enfin, en boxe, Samuel Kistoburi, qui était venu aussi et parti en stage avec l'équipe de France en vue de préparer les championnats du monde. Et il a mené avec lui, enfin ils ne sont pas partis du même côté, Bakary Kanté aussi, qui est en train d'exploser au niveau de la boxe en France. Il a des résultats phénoménaux et il est parti avec l'équipe de France préparer aussi les championnats du monde. Voilà Mélissa pour les résultats.
Et donc aujourd'hui on reçoit Pierre Espagnol. Peut-être je te laisse commencer les présentations.
Mais en fait, l'émission Sport Campus c'était à la base pour faire découvrir divers sports un petit peu partout. Et là aujourd'hui, je vais un petit peu baser l'émission sur Pierre Espagnol. Ça va être un petit peu que sur Pierre Espagnol parce que c'est quelqu'un qui est dans le milieu du foot, qui est quelqu'un qui connaît le football. C'est quelqu'un qui est, je l'ai appelé le couteau suisse des Girondins de Bordeaux, mais je pense qu'il a fait un petit peu partout. Et Pierre Espagnol, c'est un personnage à lui tout seul. D'ailleurs, il pleut dehors, mais vous allez voir qu'avec son accent, on aura apporté un petit peu de soleil. Tu peux te présenter, tu es originaire d'où, Pierre ?
Alors moi, je suis originaire de Toulouse. Donc j'ai vu le jour là-bas en 1963 et je suis resté de longues années. J'ai grandi au centre-ville de Toulouse, dans un quartier qui aujourd'hui n'est plus très populaire, mais qui est devenu un peu plus huppé, mais qui à l'époque était où les enfants pouvaient gambader encore dans le jardin public et jouer au football dans la rue. Donc c'est à la fois très proche et très loin. C'était une autre époque qui avait des avantages et des inconvénients, mais qui reste bien gravé dans mon esprit.
Toulouse, c'est une ville de rugby, non ?
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, mes premières images de sport, c'est le rugby, parce que mon père était un rugbyman qui a été d'ailleurs très jeune champion de France avec Castres à 18 ans et 19 ans, qui était apparemment, au dire de certains journalistes que j'ai rencontrés à l'époque, très doué, mais qui, à 20 ans, a choisi d'aller travailler à l'étranger, parce qu'à l'époque, c'était un peu différent d'aujourd'hui. Et il est natif d'un petit village qui s'appelle Bram, dans l'Aude, qui était la demeure des Spanghero, de Walter, qui était une figure emblématique du rugby quand moi j'étais un jeune adolescent.
Donc toi, tu étais le paria, quoi. T'es parti du côté football ?
Oui, ça a été. Bon, j'ai touché un ballon de rugby assez tôt, et puis après, j'ai touché un ballon de foot. Il s'avérait que je me débrouillais pas mal avec le ballon, et je suis resté sur ça.
Alors, et l'aventure, elle commence comment ? J'ai les violets au TFC ?
Non, j'étais jeune joueur à Léo Lagrange, au Toulouse-Fontaine par la suite. Et pendant quelques années, au début, j'étais sollicité par des clubs qui mettaient en place un peu les centres de formation. Mais c'est avéré que moi, j'étais bien à Toulouse, j'adorais ma ville et j'étais bien chez mes parents aussi. Certains de mes collègues de l'époque, comme soit Daniel Bravo ou d'autres, sont partis dans les centres de formation. Moi, je suis resté. Ce qui a fait en sorte de retarder un peu les chances parce qu'à 16-17 ans, il fallait bien faire quelque chose aussi. Et à l'époque, le TFC avec Cahuzac et Roussel sont revenus vers moi et je suis parti jouer là-bas directement en 3e division avec des joueurs de l'époque, Segura, Lovitz, Vinuesa. Et puis le chemin s'est fait assez rapidement.
T'es la génération qui a vu naître les centres de formation, toi, c'est ça ?
Oui, c'était ça. Moi, j'étais jeune joueur avec les ligues Midi-Pyrénées, etc. et les sélections. C'était un peu les prémices des centres de formation. Donc moi étant Toulousain, bien dans ma ville, et à l'époque c'était une ville au demeurant très très agréable à vivre, j'avais tous mes amis là-bas, je suis resté, J'ai joué très tôt en division 4, c'est l'équivalent aujourd'hui de la N2.
Tu étais où là, à Toulouse-Fontaine ?
Toulouse-Fontaine, ouais. j'avais 16 ans. Donc,
entre parenthèses, Toulouse-Fontaine, ça devient quoi là ? C'était une place forte du football.
Oui, mais je crois que ça. Bon, j'ai perdu.
Il n'y en a plus, non ?
Non, c'est fini. C'est fini depuis quelques années.
Ouais, c'est vrai, je ne vois plus passer Toulouse-Fontaine.
Non. Chez les jeunes, notamment à Toulouse, c'était une bonne école avec d'autres clubs.
C'était l'antichambre du TFC, quoi, en fait.
Oui, voilà. Il y avait 2-3 clubs comme le TAC, Léo Lagrange, qui se tirent un petit peu la bourre. C'était les matchs de banlieue, on dirait, aujourd'hui. Mais c'était un peu chaud.
C'était chaud,
oui. Oui, c'était chaud. Et puis, non, moi, j'ai joué tôt là en D4. Et puis après, je suis parti avec la. Au TFC, où c'était encore une époque très différente d'aujourd'hui.
Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un junior Toulouse-Fontaine en Gambardella. Je veux dire que c'était chaud.
Aujourd'hui, ça ne pourrait plus arriver ce qui se passait avant.
Et alors, après, comment ça se passe ? Alors, tu es repéré, c'est quoi qui...
Après, je suis parti directement à Toulouse. J'ai joué en 3e division. On avait une ossature de bons joueurs. Ça s'est très bien passé parce que la première année, on a été champion de France de 3e division contre Nantes. Et l'année d'après, je suis passé dans le groupe pro. Et puis après, j'ai joué en pro 2 ou 3 mois après, rapidement.
Et là, ton aventure avec les pros, tu as connu des grands noms, je crois, au TFC, non ?
Oui. J'ai passé. Alors bon, mes 2 premières années se sont très bien passées, de bons résultats. Et puis ensuite, moi, j'étais embêté par des blessures. Et puis finalement, j'ai fait 3 ans et demi, 4 ans au TFC. Je suis parti à Toulon en première division, là, avec, parce que Roland Courbis, que j'avais vu un ou deux ans avant. Malheureusement, mais je n'ai pas réussi, justement, par rapport à l'époque, à bien me soigner. J'étais obligé d'arrêter ma carrière assez tôt.
Tu as eu quoi comme blessure ?
Problème de cheville, qui aujourd'hui, au demeurant, ce que j'ai eu à l'époque aurait été traité très rapidement et je n'aurais eu aucun souci.
Et pourquoi tu pars à Toulon ? Alors, c'est l'amitié avec Roland ? Tu le connaissais avant ou
Ouais, je le. Moi, c'est-à-dire que j'avais passé une dernière année avec Jacques Santini un petit peu compliquée parce que j'avais eu des hauts et des bas, justement par rapport à ma blessure. J'avais 23 ans, j'ai dit pourquoi pas changer aussi d'air, comme on dit. C'était le Sud, j'avais un copain qui était à Toulon. Voilà, j'avais la possibilité d'aller dans 2-3 clubs, j'ai choisi Toulon. Et puis, au demeurant, humainement, ça s'est bien passé, mais. Footballistiquement et surtout physiquement, j'ai continué à avoir des soucis.
Et t'as connu qui en grand nom là-bas à Toulouse ?
Toulouse, j'ai eu Tarantini, Marsico.
Marsico, voilà.
Voilà, Gérald Passy, avec qui j'ai toujours des relations. Je citerai Jean-Luc Sassus parce qu'il n'est plus là et avec qui c'était quelqu'un de ma génération. Jean-Luc Vignueza, qui était un jeune joueur aussi. Bon, lui, il n'a pas joué en D1, mais c'était un. C'était une amitié forte. Et puis après, il y avait
mon gardien à l'époque. Là,
oui, j'avais Philippe Bergerot avec qui je suis parti. C'est pour ça que je... Non, j'allais y venir. Il y avait Philippe Bergerot avec qui je suis parti d'ailleurs après à Paris. Il y avait Jean-Philippe Durand avec qui j'ai toujours des contacts. Il avait joué avec moi au Toulouse-Fontaine. Il y avait Yannick Stopira. Il y avait Guy Lacombe qui a fait une longue carrière de coach. Donc on avait un bon groupe de joueurs qui était bien sûr moins important en effectif que ce qu'il fait aujourd'hui, mais qui était avec des rapports beaucoup plus directs.
C'est le temps de l'épopée européenne que vous avez fait là-bas, tu y étais là ?
Oui, c'est ça. Moi, je suis parti l'année d'après, en fin d'année européenne, l'année où on a fait Naples, Leverkusen.
C'est ça, vous avez tapé Naples, je crois.
Voilà. Ouais. Il y a quelques années, oui.
Ouais, Nico ?
Oui, alors est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite frustration de se dire que cette blessure qui vous a un petit peu handicapé votre carrière professionnelle, elle aurait pu être soignée facilement aujourd'hui ? Alors, quand on se reprojette à l'époque, on se dit merde, quand même, je jouais pas à la bonne époque, peut-être.
Alors bon, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais longtemps embêté avec des soucis, c'est-à-dire comme ça n'a pas été décelé vraiment, j'ai eu une grave blessure, une grosse entorse de la cheville, d'ailleurs ici à Bordeaux, avec Alain Roche, que j'ai retrouvé par la suite, et ça a traîné, et ça a dégénéré, je l'ai su par la suite, par des compensations ailleurs. Ce qui fait que ça reproduisait des petits bobos tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et comme ça a perduré quand même pendant 2-3 ans, on arrivait à un stade en disant même oh, « Pierre, il n'a pas envie de jouer ». Non, ce n'était pas ça, c'est que j'avais toujours des soucis. Et finalement, le jour où je m'en suis sorti, j'étais heureux de pouvoir être bien soigné, parce que j'ai été opéré plusieurs fois. Et rétrospectivement, bien sûr, qu'on a toujours des regrets en se disant qu'aujourd'hui, comme les clubs, c'est des labos. Hein. Aujourd'hui, je dis souvent en plaisantant, les sportifs de haut niveau sont mieux préparés que les hommes qui sont allés sur la Lune en 69. Mais c'est la vérité. Donc, j'aurais été mieux soigné parce qu'aujourd'hui, le moindre petit pépin est préalablement même presque décelé, que ce soit musculairement ou après sur des coups. Donc, vous êtes excessivement bien soigné parce que tous les gens qui encadrent les sportifs de haut niveau sont aussi de haut niveau.
Tu as cité tout à l'heure un entraîneur, et j'aimerais que tu m'en un petit peu de lui, c'est Jacques Santini. Oui. Cet aspect qu'il donnait, parce qu'il était entraîneur de l'équipe de France, quand même. Mais moi j'étais surpris, parce que pour moi c'était un gros nounours sur un bord de touche, quoi, non ?
Ben, c'était paradoxal, parce qu'il a un parler, surtout sur les interviews, donc, qui lui a causé quelques petites moqueries, on va dire.
Il finissait pas ses phrases.
Voilà, ouais. Et il avait un rythme de débit qui n'était pas toujours très élevé, bon bref. Mais il a eu quand même une carrière, que ce soit en tant que joueur, mais aussi comme entraîneur, qui a duré, qui a été ponctuée de bons résultats, et c'était un bon entraîneur. C'était un bon entraîneur, il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il faisait. Il avait des côtés, bien sûr, qui étaient faciles, et puis d'autres moins. Mais,
oui, il paraît qu'il avait un tempérament, c'est bougon. Il était,
oui, après, il pouvait être... moi, qui n'étais pas toujours très discipliné sur certains points, on avait quelques...
C'est-à-dire ouais, allez, tu peux tout lire en temps.
Oui, non, mais disons que, bon, je n'étais pas toujours très concentré comme il l'aurait voulu.
Tu aimais la fête ?
Non, pas plus que ça, mais non. Bon, j'avais certaines formes de qualité qui faisaient que je prenais peut-être de temps en temps certains entraînements à la légère, donc il me le faisait comprendre. Il m'en tenait parfois rigueur parce qu'il était un peu rancunier quand même.
Il y a un deuxième personnage dont tu as parlé, moi il me fascine, c'est Roland Courbis, et je parlais tout à l'heure en off avec lui, parce que moi j'ai une anecdote avec Roland Courbis à travers ma société. Quoi. À l'époque, il n'y avait pas les billets informatiques maintenant, des billets d'avion, et c'est ma société qui transportait tous les titres de séjour des Girondins, donc j'étais au château quasiment tous les jours. Et c'était Courbis qui était entraîneur à l'époque, et bizarrement, dans tous les billets que je portais, il n'y avait jamais Courbis. J'ai dit, c'est quoi cette histoire ? Mais tous les jours, il fallait que j'aille au Mercure à Mérignac, et on me disait, vous posez le billet sur la table bleue. Et en fait, c'était les billets de Roland Courbis qui partaient un week-end à Monaco à l'époque. Et un jour, je me souviens, il y avait cet escalier derrière, et je pose le billet, et puis j'entends avec son accent, c'est maintenant que t'arrives ! C'était Courbis qui était derrière, et qui est descendu, parce que j'étais pas à l'heure. Et en fait, on avait fini par boire un verre et tout, c'est un mec extraordinaire. Et avec vous, il était comme ça, il était jovial, il était...
Oui, Roland, on le sait, c'est un personnage. Moi, je l'ai connu à Toulon, donc en plus, c'était je crois que c'était sa deuxième saison en tant qu'entraîneur en première division. En plus, c'était Toulon de l'époque. Donc là, bon, si on peut en parler, il faut faire des émissions de 2-3 heures, parce que là, c'était un autre monde, une autre époque, avec des personnages, avec des groupes de joueurs aussi un petit peu particuliers, avec des joueurs avec gros tempérament, et voilà, qu'on se permettait parfois des accueils d'équipes adverses, comme ça se fait plus.
Il fallait y aller à Toulon.
Voilà,
c'était
à Mayol, ouais. Oui. Et Roland était un personnage qui a, d'ailleurs, lui aussi, il a beaucoup évolué. Entre le début où je le connaissais, quand il nous coachait, il avait des chemises de haut en couleur, avec des chemises aussi bariolées à la toulonnaise, ou avec un encadrement dit de personnage de la côte dans le club, qui aujourd'hui, ça serait plus possible. On avait un environnement très, très particulier.
Ah oui, il faut le dire. Ouais, Louis.
Depuis le début, en fait, on entend beaucoup parler de ce football de l'époque qui était beaucoup plus dur, beaucoup plus cercle fermé. Comment ça se fait qu'on explique aujourd'hui que c'est plus laxiste, entre guillemets ?
Ben, tout simplement parce que médiatiquement, la presse et les médias ont une position qui fait que tout ce qui se passe sur un terrain, tout ce qui se passe en dehors d'un terrain, dès qu'un joueur met le pied dehors de chez lui, ou tout ce qui se passe dans un couloir de vestiaire, est automatiquement décrypté, retransmis.
Neymar et ses soirées.
Déformé ou pas déformé. Et l'arbitrage, l'arbitrage a évolué dans un certain sens, bien, je pense, moins bien par rapport à certaines choses. Mais c'est un petit peu aseptisé, c'est-à-dire qu'il y a des gestes footballistiques en tant que footballeur qui ont disparu. C'est-à-dire que le tacle... Alors là, si vous en parlez à Marius Trésor, je dirais parfois à Marius en plaisantant, je dirais tu ne pourrais plus jouer aujourd'hui. C'est impossible. Donc il y a eu une bonne chose qui a été faite, et la protection par rapport à certaines agressions. Et quand je parle d'agression, c'était vraiment très très dur. Et c'était très très dur. Il faut savoir que c'est très très dur en match parfois dans certains clubs, comme quand vous veniez jouer à Toulon. Mais par contre, c'était très très dur à l'entraînement. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, les tacles par derrière, c'était monnaie courante.
La place se gagnait comme ça.
Oui et non, mais ça faisait partie du jeu. Parce que c'était intégré par les arbitres. Aujourd'hui, les arbitres, vous ne pouvez plus toucher un joueur.
Globalement, à l'époque, il fallait savoir rester debout à la fin de l'entraînement pour pouvoir être titulaire.
Oui,
l'idée, après, c'est une caricature.
Comme aussi, on avait appris le football dans les rues. Moi, j'étais un joueur qui touchait beaucoup le ballon. J'étais habitué à prendre des coups. J'étais habitué à anticiper. Mais de temps en temps, bon, quand vous preniez un bon tacle par derrière,
ouais, par derrière
à une certaine hauteur. Bon, mais là, vous ne pourriez rien faire. Mais... Donc aujourd'hui, ça a disparu. Je dirais tant mieux. Mais certains joueurs, oui, seraient un petit peu embêtés aujourd'hui.
Vous savez, ce côté un peu aseptisé du foot, c'est un regret quand même que le foot soit devenu ça ou pas ?
Au demeurant, quand vous jouez contre aujourd'hui, il y a des, par exemple, en ce moment, c'est la Champions League. Donc, c'est des joueurs de très, très haut niveau qui sont, ça va beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant à ce niveau-là. Les joueurs sont bien plus préparés. Ça veut dire que des joueurs qui sont nés, comme je dis souvent, il y a des joueurs qui sont nés il y a 40 ans qui ont été pros, ou des joueurs qui vont naître dans 20 ans, ils seront pros. Ils joueraient aujourd'hui au même rythme, à la même vitesse, parce qu'ils seraient préparés de la même manière. Donc, ça fait que le ballon, si vous regardez le match d'hier soir comme Bayern City, le ballon, il ne sort jamais, il n'y a pas de faute technique pratiquement, c'est un niveau exceptionnel. Après, il y a le niveau en dessous, et là, quel que soit le niveau, il y a l'impact physique, il y a l'impact qu'on met physiquement sur des temps de passe, et là, le duel en football, il existe. Et de temps en temps, c'est un petit peu aseptisé quand même, parce que ça fait partie du jeu. Au même titre que sous les paniers en basket, il y a un duel, il y a une présence physique, sans être dans une mauvaise agressivité.
Mais ça dépend pour qui. Hein. Généralement, au poste, il y a les gentils et il y a les pas gentils.
Voilà, mais d'autant que beaucoup de joueurs aujourd'hui tombent facilement, crient facilement, se roulent facilement, et les arbitres, notamment en France, là, ils ont... vous avez l'impression que vous ne pouvez plus toucher personne, alors qu'à un moment donné, sur un temps de passe, quand vous arrivez sur un ballon, si vous mettez le pied, vous mettez le pied.
Après, si on regarde d'un autre côté, ça allonge des carrières. Oui. Si on regarde de l'autre côté du périph.
Là, c'est pas très sûr, là, par contre.
Ça dépend pourquoi, mais moi, en tout cas, c'est le point de vue que j'ai. Après, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord avec ou pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de joueurs qui ont des carrières plus longues. Je vais prendre là, par exemple, l'exemple de Sergio Busquets, qui est là depuis quand même un sacré moment. Mmh. Et par rapport à l'époque où, 32 ans, c'est peut-être la limite.
Oh, sûrement pas. À l'époque, les joueurs finissaient beaucoup plus vieux.
Ça dépend parce que c'est beaucoup plus violent, donc tu as beaucoup plus de blessures aussi.
Oui, après, je pense qu'aujourd'hui, quand même, c'est pour revenir à ce que je disais au début, il faut savoir que l'environnement d'un club aujourd'hui, et par exemple en 1980, quand j'ai commencé moi, c'est énorme. C'est énorme la différence. Moi, quand je venais à l'entraînement en 1980, j'étais pro, 81. J'amenais mon t-shirt et mon short. Vous voyez ce que je veux dire ?
Maintenant, ils amènent les écouteurs. Ils amènent...
Non, mais je veux dire, aujourd'hui, ils sont tellement pris. J'ai lu il n'y a pas longtemps un papier, et je connais quelqu'un qui travaille aussi, avec Fabien Galthié en équipe de France de rugby. Mm. Et c'est impressionnant, la préparation qu'il y a et le lien avec les clubs. Je faisais le rapport par rapport aux astronautes au 69. Mais les types, quand ils sont montés dans leur cage à poules en 69, ils étaient moins bien préparés que les rugbymen français qui vont faire la Coupe du Monde là. Au mois
il y a de l'excès un petit peu quand même, je crois.
Oui, parce qu'on veut tout maîtriser, on veut tout transformer, que ce soit avec les chiffres, avec
c'est trop.
L'omniprésence de la presse, l'omniprésence de l'argent, c'est peut-être ça les facteurs.
Non, mais c'est surtout au niveau médical.
La préparation athlétique, que ce soit pour la prévention des blessures, pour tout, on est dans une autre dimension. Parce qu'aujourd'hui, quand un rugbyman, vous voyez que quand il arrive à 17-18 ans, on lui dit, ou à 16 ans, on le prépare à prendre 5, 6, 7, 8, 10 kilos de muscles. Mmh. Il faut être vraiment très pointu
et pas
physiquement.
Toujours propre. C'est
voilà, ça, donc ça, je pense que la durée de carrière aujourd'hui, il y a beaucoup de footballeurs, comme je crois que j'ai vu Benzema, le nombre de matchs qu'il a fait, ou même des gens comme Messi ou Ronaldo qui arrivent au bout de leur grande carrière. Ils ont joué quand même 15, 16, 17 ans au très très haut niveau.
C'est pour ça que j'ai répondu à Louis que ça ne veut pas obligatoirement dire. Il n'y a pas d'époque pour finir plus tôt.
Je crois qu'il y a aussi une dimension qui est importante, c'est le nombre de matchs que vous allez faire dans l'année.
Voilà. C'est ça, voilà. À l'époque, tu faisais un match par semaine.
Voilà. Les compétitions aujourd'hui, quand on voit les compétitions de très haut niveau, donc les internationaux, qui sont quand même plus souvent des gens très sérieux, qui prennent soin d'eux, parce qu'ils aiment ça, et puis bon, c'est bénéfique à tout point de vue. Mm-hmm. Entre les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de Coupe de leur pays, alors, si vous êtes en France, c'est la Coupe de France, Coupe de la Ligue qui est plus mais qui existait, le championnat, les matchs internationaux.
Ils jouent tous les trois jours.
Les matchs de Coupe d'Europe.
Paris,
et on est capable aujourd'hui de mettre des matchs, les coupes, je ne me rappelle plus, c'est la Coupe Confédération.
Intercontinental.
On peut arriver à 60-70 matchs en une année.
Après, pour prendre l'exemple c'est du basket, on peut faire le parallèle qui est intéressant, c'est-à-dire que en NBA, pour une équipe qui va en play-off, on va dire, Il joue une série de 82 matchs plus les playoffs, donc ça peut aller de 16 à 32 matchs à peu près. Hein. Il joue ça de octobre à mai-juin. Donc c'est-à-dire que c'est une période réduite où ils doivent enchaîner une centaine de matchs. Ouais, on peut faire le parallèle où c'est quand même...
C'est beaucoup moins physique et c'est beaucoup moins...
Entre le basket et le foot, je ne suis pas sûr qu'on peut parler de différence physique quand même.
On va parler
plus de... Le terrain est plus grand.
Ouais, voilà.
Non, mais les
ils se rentrent dedans au basket.
Moi, j'ai eu l'accès à des études. Bon, c'est pas du tout.
Et puis j'en fais.
C'est pas les mêmes efforts.
Non.
C'est pas du tout les mêmes efforts parce que au football, la capacité que vous devez avoir pour courir pendant 90 minutes maintenant, plus c'est 100 minutes, avec les efforts répétés, courts, moyennes et longues durées, avec les intensités, c'est un des sports le très très exigeant.
Certainement.
Du point de vue ressources énergétiques.
On va revenir, je vais te demander un petit peu ton opinion. Tout à l'heure, tu as parlé justement, on a parlé un petit peu vite fait des médias, de tout ce qu'il y a autour du foot maintenant. Je vais prendre un exemple à Bordeaux-Bastia qu'on a vu l'autre soir. Tu parlais à l'époque qu'un tacle, bon, mais ça faisait partie du sport, quoi, c'était ça. Je vais prendre l'exemple, on va prendre Franck Sergio, qui a fait un super match. Au moindre tacle, il fait trois roulades dans l'avant, trois roulades dans l'arrière. On a quoi qui fait la même. On a une bagarre générale qui ressemble à rien à l'époque. À l'époque, quand tu as parlé de Toulon, moi je me souviens d'un Nino Savelgique. J'accompagnais une équipe de jeunes, on était ramasseurs de balles. Pour moi, c'était Bordeaux, je ne sais plus trop contre qui. Dans le tunnel de l'Escure, il a mis l'emplâtre à un joueur en face. Il y avait des caméras. Personne ne l'a su. Nous, on l'a vu parce qu'on y était. Là, c'est parti dans tous les sens. Donc, est-ce que ton regard par rapport, quand toi, tu es arrivé pro, il y avait juste Antenne 2 ou FR3 vite fait, là, avec qui passaient les images, à part les grands événements, et puis maintenant où le moindre petit match, moi j'ai regardé l'autre jour dimanche ou lundi la demi-finale de Coupe Gambardella qui était Pau contre Monaco, c'est les jeunes 18 ans, c'est retransmis quoi. Donc il y a des caméras partout, il y en a dans tous les recoins. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Ça enlève pas un petit peu ce côté football quoi, on va dire?
C'est-à-dire que bon, moi ayant grandi dans le monde que je décris un petit peu, moi j'avais un temps pour le football et puis j'avais un temps pour le reste. C'est-à-dire que moi, je m'intéressais un petit peu à ce que je faisais sur le terrain. Mais une fois que c'était fini, il faut bien décrire qu'en ce temps-là, alors je dirais, on passait à autre chose. On passait à autre chose et la dimension un petit peu philosophique de notre métier, elle a un petit peu changé. Alors bon, peut-être que moi, j'étais un petit peu atypique, c'est-à-dire que je faisais mon entraînement, j'avais fait mon entraînement, c'était terminé. J'avais mes potes qui faisaient du foot, ou beaucoup, la plupart ne faisaient pas de foot. Et on basculait sur autre chose. Et dans la semaine, comme il n'y avait aucune média qui ne parlait de rien, que ce soit surtout, je parle des médias, on parlait d'Antenne 2, mais il n'y avait que Antenne 2, il y avait deux chaînes de télé.
Mais c'est pour ça que j'ai...
Il y avait deux chaînes de télé. Après, Canal Plus est arrivé au début des années 80. Et si on compare à aujourd'hui, c'est énorme la différence. C'est-à-dire que les gens qui ont un profil de commentateur, sportif, consultant, il y a des émissions tous les jours. Sur toutes les chaînes, si on veut. Et si vous voulez voir des matchs tous les jours sur une chaîne, vous en avez la possibilité. Donc moi, je n'ai jamais été très regardant là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'aime bien regarder un petit peu de basket, un peu de rugby. Donc c'est une richesse d'avoir aujourd'hui des plateformes qui vous permettent d'accéder à différents sports. Je pense à ça que c'est un enrichissement.
Et à tout type de catégories.
Et à tout type de catégories aussi. Et de notre côté, à l'époque, on avait des relations qui étaient totalement différentes. Parce que moi, c'était la Dépêche du Midi à Toulouse. Donc, c'était Patrick Boudreau et Christian Rayac, deux journalistes de la Dépêche. Ben, nous, les portes des vestiaires, elles étaient tout le temps ouvertes. Ils rentraient, on discutait le bout, on allait manger un bout. Il n'y avait aucune onde négative sur ce qui pouvait être rapporté. C'est la différence aujourd'hui.
C'est ce que je voulais te demander, voilà. Pierre, parce que toi qui as été sur des bancs de grands clubs, que ce soit PSG, Bordeaux, est-ce que tu peux travailler sereinement quand tu vois qu'il y a la moindre caméra qui est en train de regarder si tu ne te grattes pas le nez ou si tu ne fais pas un clin d'œil au voisin? C'est gênant, quoi. C'est...
Je crois que c'est Guardiola qui disait et qui dit tout le temps à ses joueurs, dès que vous mettez le pied en dehors de chez vous, vous êtes filmé.
Oui, c'est ça, c'est voilà. Ça.
Donc c'est une attitude différente. Donc ça peut changer le comportement, je pense, de certaines personnes. Et dans le travail, on est obligé...
Ça ne te gêne pas?
Oui, ça gêne un peu quand même. Parce
quand,
que...
quand on les voit, ils sont obligés de parler avec la main devant la bouche, c'est OSS 117.
Voilà, alors ça c'est un problème aussi un peu d'époque par rapport aux jeunes, etc. Si les gens peuvent se laisser aussi...
Tu sais, Pierre, qu'en district maintenant, en entreprise, j'ai joué l'autre jour, on a fait un match entreprise, j'ai entré une équipe entreprise, et les gars, ils se parlaient comme ça quand ils me passaient devant le banc. C'est un truc de fou.
Bah oui, mais c'est un réflexe après.
C'est un truc de fou.
Mais je crois aussi qu'il faudrait de temps en temps, bon, alors moi, chacun est différent, c'est relativiser aussi beaucoup les choses. C'est-à-dire que le football, ça reste du football, et quels que soient les gens qui vont passer ou qui sont passés ou qui vont arriver, il faut aimer le jeu tel qu'il est. Il ne faut pas aussi donner trop d'importance à ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement aujourd'hui aussi, il y a tellement d'argent autour.
Il ne faut pas venir pour les strass et les paillettes. Quoi. Si tu fais ça, tu rentres chez toi.
Voilà, c'est-à-dire que voilà, bon, y a des grands joueurs. Et on est, alors les médias aussi se plaisent aujourd'hui à construire autour, que tout à l'heure on parlait de Neymar. Neymar, au demeurant, c'est un joueur exceptionnel.
Ah oui.
Et sûrement un des joueurs les plus doués de ces 30 dernières années, et qu'il fait des choses que personne ne sait faire. Et après, ben, justement, à côté, et c'est peut-être un bon exemple, au fur et à mesure de sa carrière, qui a un petit peu décliné.
Oui, il fait des choses que personne ne sait faire dans tous les sens. Lui.
Voilà. Et donc, à l'époque, ce qu'il aurait sait faire et dont on parle aujourd'hui, à l'époque, on n'aurait pas su ce qu'il faisait. Oh. C'est-à-dire des joueurs qui jouaient au poker, des joueurs qui sortaient, des joueurs qui buvaient et qui fumaient.
T'as pas joué au poker avec Roland ? T'as
si,
pas joué
avec l'autre ? Tout le monde, oui, ouais. Oui, voilà. Mais il y a des joueurs qui... Bon, voilà.
Mais on ne le disait pas sur Beansport qui jouait au poker, tu vois. Là, maintenant, c'est documenté partout.
Mais si, d'un autre côté, s'il veut jouer au poker aussi, il n'est pas obligé d'aller sur Bean. Il pourrait jouer chez lui avec des amis et ne pas en parler. Donc, et ça, c'est une protection personnelle. Mais je pense, voilà, moi, je suis plus attiré par le fait que c'est un joueur... Je veux dire, quand on va au stade, on va voir des joueurs comme ça aussi. C'est la différence avec les autres, parce que c'est des noms, et il fait des choses avec le ballon que voilà, vous avez des profils de joueurs, Cristiano Ronaldo, Mbappé, qui sont des tueurs, qui peuvent très bien ne pas toucher des ballons pendant 30 minutes, et vous marquez 4 buts en 10 c'est minutes. Ça. Mais par contre, qui ne sont pas capables de faire ce que vous font des gens dans la créativité, des certaines formes de créativité, comme Neymar, qui ont des touchés de balles et des inspirations particulières. Mais
il est meilleur au foot qu'au poker, parce qu'il a perdu gros, là, j'ai vu.
Ouais, je sais pas, mais c'est quand même... si on prend ce joueur-là, sûrement, moi, il y a longtemps que je n'ai pas vu, mais j'avais vu ce qu'il faisait quand il avait 17 ou 18 ans. C'est exceptionnel.
Ah non, mais c'est un magicien.
Voilà.
C'est un magicien.
Mais après, il est tombé aussi dans un... Ce sont des cultures particulières, les
dans
Brésiliens. Voilà, et dans un club aussi qui, aujourd'hui, au demeurant, n'est pas facile. Enfin, pas facile. Ça me fait rire qu'on dit que ce n'est pas facile. Parce que, bon, ils ne sont pas malheureux. Quoi.
C'est la pause, Mélissa.
On arrive à la mi-temps de l'émission. Tout de suite, on va écouter un peu de musique avec le titre Halo de Anne Brun. Et on revient juste après avec notre invité du jour, Pierre Espanol. Remember those walls I built? Baby, they were tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule that you're breaking is the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray you won't fade away. Hit me like a ray of sun. Burning through my darkest night. You're the only one that I want. Think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground.
ground again. It's like I've been a weekend. Every rule I had you breaking. The risks that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see. It's written all over your face. Baby, I can see your halo. Pray you won't fade away.
I can feel your halo.
Away.
I can see your halo.
Away.
I can feel your halo.
Away.
I can see your halo.
I can feel your halo.
مدينة الفن
بوردو
كامباس بوردو.
Il est 13h34, on est toujours en direct et vous êtes à l'écoute de Sport Campus. On est toujours avec notre invité du jour, Pierre Espagnol, et on avait encore plein de sujets à aborder avec lui, n'est-ce pas Alain?
Oui Pierre, il a une autre facette, c'est qu'il était formateur.
Oui.
Parce que t'as pas été que sur les bancs en tant qu'adjoint, t'as été beaucoup formateur. La blessure t'éloigne des terrains.
Ouais.
Et j'ai cru voir dans ton CV que c'est un pote à toi qui te relance, qui te permet de...
Oui, alors par le bien pur des hasards, vraiment, c'est au détour d'une route, souvent je plaisante, parce que je n'étais pas du tout, un, programmé pour faire ça, deux, je n'avais pas du tout prévu de faire éducateur ou entraîneur. Et c'est,
tu voulais stopper le foot, toi, c'était fini.
Comme quand j'ai arrêté ma carrière suite à une blessure, j'ai passé 5 ans quand même, je me suis opéré 3-4 fois, à faire des rééducations, ça a été très très long. Et je savais, sincèrement, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je n'avais rien programmé. Mon père était dans les assurances. Donc, à un moment donné, il fallait quand même se mettre un peu au charbon. Et il m'avait trouvé quelque chose pour que j'aille faire une formation en alternance dans un cabinet d'assurance. Il y avait un ami à lui qui avait un portefeuille à Toulouse. Et je crois que c'est 15 jours avant, je rencontre quelqu'un dans une petite soirée qui me dit « Tiens, je te présente cette personne. Si tu veux aller lui dire bonjour une fois, il me dit oui, passe me voir. » C'était en l'occurrence un CTR de la Ligue Midi-Pyrénées de football. Et la personne que j'avais rencontrée, c'était le président de la Ligue Midi-Pyrénées, que je connaissais de l'époque où je jouais à Hautfontaine. Et un après-midi, en sortant de Toulouse, j'ai dit « Tiens, je vais passer dire bonjour alors, parce que j'étais dans le coin. » Bon, je le fais rapide et en gros, il m'a dit « Je cherche quelqu'un qui connaît rien au métier d'éducateur, ça te dit, viens demain. » J'y suis allé, je me suis mis en tenue et puis finalement je suis resté.
Et voilà. L'histoire part comme ça.
Voilà, c'était Eric Momberts qui était CTR de la Ligue Midi-Pyrénées de football et qui mettait en place les centres de préformation en France avec Gérard Rouillet. Et ça s'est trouvé comme ça. Et j'ai démarré, mais par le plus simple des hasards.
Eric Momberts qui a fait une super carrière.
Eric Momberts qui est au demeurant d'ailleurs toujours en activité. Il travaille avec le groupe City et qui est un excellent entraîneur et formateur.
Il a fait les grands clubs aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Qui est un hyper passionné. Voilà, et qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné un petit peu une... qui m'a formé. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi d'ailleurs après à avoir une forme un petit peu de reconnaissance dans le milieu parce que je me débrouillais assez correctement dans mon travail de formateur.
C'était l'idée de ne pas quitter le terrain, en fait, un peu aussi, non?
Oui, c'est-à-dire que je me suis retrouvé entouré de gamins alors que je savais, mais sincèrement, je ne savais même pas ce que c'était le métier d'éducateur à part les entraîneurs que j'avais côtoyés. Je me suis retrouvé là, dans un environnement verdoyant, dans la nature, à l'extérieur, avec quelqu'un qui m'a donné un petit peu le goût à ce genre d'activité. J'ai dit pourquoi pas, et puis le pourquoi pas, bah je l'ai testé, et puis ça s'est avéré que ça reste un moment.
C'est mieux que de travailler dans un bureau.
Sûrement.
Et tu viens de mettre l'accent sur un point sur lequel je reviens souvent, c'est la différence entre... Tu as dit je connaissais les entraîneurs, mais je ne savais pas ce que c'était un éducateur. Mmh. Et je passe mon temps à expliquer aux gens que entraîneur et éducateur, c'est pas du tout le même monde.
Non, c'est des métiers différents.
Tu as fait les deux, toi, en plus.
Ouais, moi, j'ai fait éducateur, entraîneur et formateur. Alors, éducateur-formateur, pour moi, c'est ça se ressemble. Et après, entraîneur, c'est notre métier. C'est totalement différent.
C'est quoi la différence, alors, entre les...
Bah, déjà, la durée, c'est rarement la même. L'investissement, c'est la formation, c'est apprendre, c'est éduquer, déjà par rapport à la catégorie. C'est-à-dire que quand vous êtes entraîneur dans un groupe professionnel, c'est la gestion par rapport aux résultats que vous allez faire sur le match du samedi. Bien sûr, ça a beaucoup de contraintes, mais ce n'est pas les mêmes que quand vous prenez un groupe de travail de jeunes joueurs à 13 ans, à 15 ans ou à 17 ans, et que l'objectif, c'est de les faire progresser et de leur donner une forme de ligne conductrice, que ce soit dans le travail, mais aussi dans les attitudes qu'ils doivent avoir en tant que jeunes joueurs et qui doivent les aider à travailler au sein d'un groupe avec des objectifs collectifs tout en respectant tout un environnement. Et là, ça, c'est très, très important. Et donc, le lien n'est pas du tout le même. C'est que ce soit dans la correction journalière par rapport à leur travail sur le terrain et aussi dans la continuité de leur donner les bonnes informations une fois que le terrain est fini. Il y a tout ce qui est autour qui est aussi important, que ce soit le mot qu'on emploie, on entend tout le temps de respect, oui, mais bien sûr, c'est ça qui est important, dans les attitudes, et Dieu sait si aujourd'hui, on parle beaucoup de ça.
L'entraîneur, c'est que sportif, peut-être, et l'éducateur, c'est un peu aussi tous les à côté.
Oui, c'est un peu réductif aussi, ouais. Mais en professionnel, bon, on a affaire quand même aussi à des jeunes, parce qu'il y a souvent des jeunes joueurs, puisque les groupes sont quand même conséquents, mais... Alors, bien sûr, aujourd'hui, je dirais les comportements, on ne peut pas tout maîtriser, mais dans les grands clubs, comme on entend souvent aussi ça dans les médias, l'institution, c'est ce qui est au-dessus de tout. Mais quand vous faites de la formation, que vous faites partie d'une académie, vous êtes responsable de votre équipe, des jeunes, et vous veillez surtout à ce qu'ils se tiennent bien. Il y a toujours le scolaire qui est présent, il y a toujours tous les gens qui sont autour. Des éducateurs, je parle d'éducateurs, attention, je ne parle pas que dans les clubs professionnels, parce que quand vous êtes éducateur dans les petits clubs aux alentours de Bordeaux, ce sont des gens extraordinaires, hein, qui passent leur temps, qui ne sont pas payés, ils sont souvent bénévoles, ils passent leur week-end, ils passent leur soirée, il faut trouver du matériel, l'éclairage parfois il n'est pas bon, les terrains parfois ils ne sont pas bons. Donc c'est des gens
Des fois ils n'ont pas de terrain. Voilà, c'est ça.
Et Alain, il n'a même pas de terrain.
Non, mais voilà, c'est souvent, moi je l'ai connu, parce que quand j'étais à la Ligue, j'encadrais les stages de jeunes éducateurs qui passaient leur diplôme. Et parfois, je me rappelle Eric, pour anecdote, il parlait de symétrie entre les exercices, de ceci, de cela. Mais j'ai parfois un jour à Eric, je lui ai dit, mais Eric, oh, les gars, ils ont la moitié d'un terrain ou le quart d'un terrain pour faire entraîner des U12 ou des U13.
Si j'avais au moins la moitié, moi.
Voilà, donc on peut pas. C'est pour ça qu'il faut être très prudent par rapport à ce qu'on dit parfois dans ce genre de formation. C'est-à-dire que éducateur, c'est pour moi, c'est très très important. Et souvent, quand on me demande ce que je faisais à l'époque, je mettais éducateur, je mettais pas entraîneur.
Moi, j'ai l'habitude de dire que l'éducateur va te montrer comment te mettre en place sur un terrain. L'entraîneur va te dire de te mettre en place sur un terrain. Mmh. Et c'est toute la différence. Mmh. Tu vas naviguer un peu dans les grands clubs, tu vas partir au PSG. Mmh. Et tu fais quoi au PSG alors ?
PSG, je suis adjoint de Philippe.
C'est en quelle année ?
C'est 2000-2001. Voilà, j'ai fait Paris, Paris. Après Paris, j'ai fait Rennes, j'ai fait Ajaccio en Ligue 1, j'ai fait Sochaux aussi en Ligue 1, et puis Bordeaux.
Paris, t'étais avec qui sur le banc ?
J'étais avec Philippe Bergerot.
Que t'avais déjà eu à Toulouse.
Oui, que j'avais connu Philippe.
C'est lui qui t'a fait venir ?
Oui, il m'a appelé quand j'étais à Castelmauroux, que j'étais responsable du pôle espoir là-bas.
T'es passé directement de Castelmauroux là-bas ?
Ouais, je passais des U13 au pro de Paris Saint-Germain. Donc, avec une sorte. Bah, ce qui m'a sauvé finalement, c'est que.
C'était la génération 80, ils étaient gentils ceux-là.
Ouais, enfin, j'avais pas que des gentils. Mais ce qui m'a sauvé, sincèrement, souvent, et même par la suite, c'est que comme je n'étais pas programmé, moi, pour ce métier, je ne me mettais jamais une grande pression par rapport aux hommes. C'est-à-dire que je suis passé des 13, et la chance que j'ai eue, c'est que Eric m'avait donné les bons éléments pour mettre en place du travail sur le terrain. Et ça, c'est primordial. Parce que quand vous arrivez avec des joueurs de ce niveau-là, comme je suis arrivé à Paris, j'y suis allé progressivement parce qu'il y avait déjà d'autres personnes dans le staff. J'avais la chance de savoir ce que je faisais et ce que je voulais faire sur le terrain. Donc quand vous faites une bonne mise en place avec des joueurs, quand ils savent ce qu'ils ont à faire, que c'est clair et c'est net, déjà c'est une partie de gagner et que c'est un peu ludique. Donc ça s'est bien passé. Et puis après avec les joueurs, j'ai jamais eu de souci d'investissement par rapport pédagogiquement, par rapport à l'animation avec les joueurs dans les investir sur le terrain. Parce que j'ai toujours eu des bons rapports humains, mais par contre, j'ai toujours dit ce que j'avais envie de leur dire et de la manière que j'avais envie de leur dire. Donc, je me suis rarement froissé avec des joueurs, mais j'ai toujours dit ce que j'avais envie, ce qui aujourd'hui se fait moins.
Et tu te sens mieux, éducateur ou entraîneur ?
Moi, j'étais à l'aise avec les deux. C'est-à-dire que j'étais autant capable de dire à mes joueurs... les dernières années, je sais que, par exemple, à DTN, il ne fallait jamais dire aux joueurs « c'est pas bien ce que tu fais, t'es pas bon, ceci, cela ». Alors que moi, ça m'arrivait souvent de dire à un joueur bon, « hier, t'as été nul, t'as joué comme une truffe hein. ». Voilà. Mais si vous voulez, comme j'avais un certain rapport avec ces
c'est
joueurs-là...
Interdit, c'est interdit ce qu'il dit là.
Voilà.
C'est
bon. Non, non, c'est vrai. Et il s'avère que tous les joueurs avec qui j'ai fonctionné, sincèrement, je ne me mets pas en avant là-dessus, mais je fonctionnais comme ça. Là, ce matin, j'ai eu un ou deux joueurs, parce que je téléphonais à un kiné à Bordeaux pour un renseignement pour moi, pour des semaines. Il y avait deux ou trois joueurs autour que de temps en temps, ben, je frictionnais. Qui ont pas, dès qu'ils ont entendu que c'était moi au téléphone, ils m'ont envoyé le bonjour, comment tu vas. Voilà. Mais ça dépend comment ça se passe, le relationnel que pouvaient avoir les joueurs. Parfois, je pouvais être dur dans le mot, mais ça durait 5 secondes. Mais 10 secondes après, on passait à autre chose. J'ai une anecdote là.
Il n'y avait pas de rancune.
Non, il n'y avait jamais rancune, et moi non plus, mais je sais qu'à une mi-temps de match, on avait la réserve avec Mathieu Chalmé à l'Académie des Girondins de Bordeaux. Mathieu, que je salue bien, qui est un excellent entraîneur et un pur Bordelais.
Et un bon joueur de Bordeaux-Dille.
Voilà, et qui est une bonne personne que j'aime beaucoup. J'espère qu'il trouvera chaussure à son pied, comme on dit, dans le futur. Et qu'à une mi-temps, vous voyez, l'équipe était somnolente, et il y a un joueur qui était dans le. Très dur, je dirais, techniquement. Et je peux le citer, c'est Jacques Écomier qui aujourd'hui.
Écomier, ouais.
Voilà. Et je dis, Jacques, écoute, tu vas rentrer en seconde mi-temps, je te laisse 10 minutes. Je te laisse 10 minutes techniquement pour te remettre au niveau, sinon je te dégage.
Bien.
Mais je connaissais Jacques. Je sais comment il était.
Tempérament.
Vous avez la manière de le dire, en fait.
Voilà. Je savais que je pouvais lui dire ça à lui, que ça avait provoqué. Et finalement. J'étais très surpris parce qu'à la fin du match, il est venu me voir et il m'a dit « Coach, je vous remercie ».
Oui, parce que tu l'as bougé.
Oui, mais déjà, je ne m'attendais pas qu'il ait la démarche à venir parce qu'en deuxième mi-temps, il a fait une très bonne deuxième mi-temps.
Oui, il n'est pas sorti du coup.
Il n'est pas sorti du tout. Et de toute façon, on ne l'aurait pas sorti. C'était ponctuel. C'était pour un peu
pour le réveiller. Ouais.
Le saisir. Parce que Jacques était un charmant garçon, un guerrier et quelqu'un qui a du tempérament. Mais voilà, de temps en temps, c'est anecdotique cet exemple, mais c'est utile aussi de temps en temps de
sûrement.
Piquer quelqu'un, pas te le dire « Ah, c'est bien, c'est pas grave, tu vas voir, ça va venir. » Non, mon garçon, à un moment donné, c'est pas que ça va venir, tu vas te secouer, tu vas t'y mettre. Voilà, c'est ponctuellement, sur certains moments, je pense que c'est la relation que doit avoir un éducateur aussi avec un groupe de joueurs.
Alors, tu es venu tout seul nous parler des Girondins de Bordeaux, donc tu es passé par Paris, par Rennes, par Ajaccio, et tu viens aux Girondins de Bordeaux. Tu intègres directement la formation ou tu viens sur un banc ?
Non, c'est Michel Pavon qui m'a fait venir à Bordeaux, parce que j'avais joué avec lui à Toulouse. Quand je suis arrivé, j'ai été scout.
Ça marche, les copines au football. Hein.
Bah oui, c'est comme ça. Et j'ai été scout pendant 4 ans. Donc c'était un autre métier dans le football qui est intéressant aussi. Et puis après, je suis retourné à la formation. C'est Patrick Battiston, une année qui m'a fait revenir à la formation. Je crois que c'est en 2012. Parce qu'à un moment donné, Philippe Lucas avait fait un coup de main à Eric Bédoué. Et puis après, voilà, je suis resté en tout et pour tout 15 ans en Auvergne de Bordeaux, où j'ai vécu d'excellents moments et rencontré des gens extraordinaires aussi.
Voilà, l'émission m'a vite. J'aimerais que tu me parles du centre de formation Auvergne de Bordeaux, parce qu'on en parle, nous, en offre, on dit voilà, c'est l'un des meilleurs centres de Bordeaux, de France. C'est vrai ou...
Oui.
Ça a été peut-être, non ?
Oui, écoutez, moi, sincèrement, j'ai passé, on va dire, allez, 10-11 ans au centre de formation de Bordeaux. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait Patrick Battiston, donc
Marius
Tressor, Jean-Jacques Resser.
Il est toujours Jean-Jacques ?
Jean-Jacques n'est plus. Non,
il est plus.
Non, Jean-Luc Dogon, qui aujourd'hui est à Saint-Étienne. Philippe Lucas, qui malheureusement a dû arrêter par rapport à un problème, un AVC.
Il a fait un AVC, ouais.
Avec qui...
Il a repris un petit peu, non ?
Oui, j'étais avec lui hier, je l'ai vu, et qui était d'excellents éducateurs. Yannick Sopira après qui est arrivé pour le recrutement et j'ai passé mes premières années, ce sont de super souvenirs autant humains que professionnellement. Alors c'est facile de souvent décrier les centres de formation, c'est souvent facile de décrier les personnes, la critique de toute façon elle est souvent facile, mais je peux vous assurer que tous les jours il y avait une très bonne ambiance de travail, une coordination entre les éducateurs et la direction. À l'époque, à la direction, c'était M. Jean-Louis Triot, qui laissait travailler Patrick, et Patrick laissait travailler tout en surveillant les gens comme Philippe, Jean-Luc ou moi, et on avait de bons, je peux dire qu'on avait de bons résultats, puisque au-delà des titres, parce que ça aussi c'est ça peut être anecdotique, une victoire en Gambardella, une victoire des championnats en U19, champion de France avec Jean-Luc Dogon et avec Philippe Lucas à la Gambardella. Et moi qui travaillais avec les deux, puisque sur ces deux événements, je travaillais en alternance soit avec l'un soit avec l'autre pour différents travaux, je dirais, sur le terrain. C'était des gens sérieux, compétents et en plus de bonnes personnes, de très bonnes personnes.
Qu'est-ce que tu penses de ce fait de ces jeunes qui rentrent en centre de formation, quand ils rentrent début de journée, on formait des joueurs pour les garder, pour faire des pépites du club. Maintenant, on les forme pour les revendre ou pour les caser. T'en penses quoi de ça? Ça sert à quoi en fait? À faire des sous,
aujourd'hui, on en revient à ce que l'aspect économique d'un club de football professionnel est la principale base pour continuer à vivre. Et ça coûte énormément d'argent. Donc un des moyens de vivre, c'est de former des joueurs. Et si vous formez des joueurs à un moment donné, mais vous êtes obligé d'en vendre, certains. Alors quand c'est très très bien fait, c'est au compte-gouttes, ça vous permet d'année en année de prévoir tant d'argent sur votre budget, d'équilibrer le budget de votre club, parce qu'un club, c'est énormément de dépenses, de salariés,
c'est un business.
Donc aujourd'hui, il y a une forme de business qui est devenue différente, c'est le trading, voilà, dont fait aujourd'hui partie les Girondins.
Mais Pierre, ça fait peur, parce que quand tu vois la National 3, qui va perdre contre l'Aige Cap Ferré, c'est les jeunes du centre de formation qui jouent en National 3.
Alors,
ça fait peur.
Alors, non, moi je ne le prendrai pas comme ça, parce qu'aujourd'hui, la différence, c'est que les réserves pro, la plupart, elles sont à N3. Elles sont très peu à N2. Sachant qu'aujourd'hui, dans les clubs professionnels, on est obligé de faire jouer les jeunes très jeunes dans les catégories.
10 ans, 17 ans, disons.
N3, c'est même plus tôt normalement. Parce
16,
que
même 16 ans, oui.
C'est 16 ans. Parce que
il n'y en a pas beaucoup à Bordeaux.
Oui, non, mais par catégorie, c'est-à-dire que quand suivant les périodes de la saison, on prépare les joueurs sur l'année d'après. Donc normalement, là, vous voyez, janvier-février, on fait commencer à les... Certains U19, ils devraient jouer déjà en N3. Donc ça fait que la plupart des réserves pro, elles sont en difficulté en France. Mais il faut préparer les joueurs à jouer au très haut niveau. Comme il y a ce qu'on appelle un peu la post-formation. Mais on est obligé d'en passer par là. Parce qu'il faut que les contraintes de ces joueurs, qui sont souvent au demeurant plus doués que les autres, il faut qu'ils aient des contraintes supérieures. Qu'on les habitue à un rythme de jeu et une forme de jeu où le ballon va plus vite, l'animation est plus rapide, le duel est un peu plus important. Donc ils jouent un peu plus jeune tôt, donc c'est rare que les réserves pro aient de bons résultats.
Tu as évolué dans beaucoup de centres de formation. La légende me dit qu'à Bordeaux, c'est le club Med. C'est vrai ou pas?
Non, c'est faux. C'est faux. Alors, c'est un peu marrant ça, justement, ce que tu me dis, parce que quand il y a eu le changement de direction à Bordeaux, je me rappelle, c'était M. Jean-Louis Triot qui est parti. Je pense que là, c'est le moment où tout a changé un petit peu à Bordeaux, parce que c'est quelqu'un que j'ai énormément d'estime pour ce monsieur. C'est là qu'on a changé un petit peu, parce que je me rappelle, il y a un entraîneur portugais qui est arrivé, qui s'appelait Souza. Et qui a dit dans la presse, je ne le connaissais pas, je ne le connais pas d'ailleurs, je ne l'ai croisé qu'une fois, il a dit « oui, moi je vais changer les mentalités, je vais changer l'état d'esprit, je vais mettre l'esprit de la gagne en place ». Et j'ai dit, mais c'est pas possible de dire quelque chose comme ça. Parce que moi, quand je suis arrivé au Girondins de Bordeaux, quand je suis arrivé en 2008, les Girondins de Bordeaux, Club Med ou pas Club Med, ils ont été champions de France, ils ont gagné des Coupes de la Ligue, ils ont gagné des Coupes de France, et ça n'a jamais été le Club Med.
Mais déjà, vis-à-vis de vous, c'était pas très respectueux.
Non, c'est pas du tout respectueux. Voilà. Et surtout qu'il avait dit, en plus, on va reprendre parce que le travail est pas bon, ceci, cela. Et le travail était tellement pas bon que les deux premiers joueurs qu'il a vendus, il y en a un aujourd'hui qui joue à Barcelone et l'autre, il joue au Real de Madrid.
C'est ça.
Donc là, c'est ce genre de commandant, on devrait s'abstenir de les faire.
Koundé, Tourmenu.
Voilà, et les deux, ils ont été formés à Bordeaux. Alors, si tous les clubs Med, ils forment des joueurs comme ça, je souhaite à tous les clubs Med d'avoir des tridents, ces six tridents. Là, alors. Parce que, autant la formation, c'est un métier dur. Parce qu'il faut savoir que, et c'est dur dans le sens pourquoi, parce que quand vous prenez un gamin qui rentre aujourd'hui en pré-formation, il peut passer 7 ans dans votre club, au bout de 7 ans, vous lui dire « Non, tu n'as pas le niveau pour jouer en équipe professionnelle. Donc, il va falloir que tu ailles ailleurs. » Ça, ce n'est pas facile à dire à un gamin.
C'est compliqué.
Donc déjà, ça, ce n'est pas le Club Med. Et par contre, quand vous arrivez à sortir des joueurs comme Jules ou comme Aurélien, pour citer qu'eux, il y a Zedou qui est parti avec eux de la même génération, qui est un très bon joueur, bon, qui n'a pas la même destinée aujourd'hui, mais qui joue au Portugal. Et j'en ai vu partir plein. où aujourd'hui vous avez deux joueurs qui jouent dans l'équipe que j'ai eu moi à l'époque quand je suis rentré à Bordeaux, je peux en parler, c'est Vital Nsimba et Yohan Barbé.
Il y avait Youssouf aussi.
Oui, et puis il y a Grady qui joue à Lens, Grady, qui est de la même génération que Barbé et Vital. Et vous prenez Vital, Yohan et Jonathan qui sont à Lens, qui en plus d'être des bons joueurs et qui ont été formés à Bordeaux, il y avait Patrick, il y a Philippe, il y a Jean-Luc, il y a Jean-Jacques, et Marius, qui ont payé d'autres, si j'en oublie, je m'excuse.
Jean-Jacques, grand formateur, grand adresseur.
Voilà, et je veux dire, quand j'entendais, je disais souvent à Mathieu Chalmet, je disais, mais comment les gens, ils peuvent dire, ils arrivent du fin fond du monde ou du Portugal, enfin, bon bref, ils se permettent de dire qu'à Bordeaux, mais attendez, à Bordeaux, pendant des générations, il y a des joueurs qui sont sortis sans formation qui ont été bons. Il y a des joueurs qui ont joué en équipe première à Bordeaux pendant longtemps, et je les ai joués contre eux, avec Javier, il y avait Patrick qui jouait, avec un des plus grands joueurs français de tous les temps, c'est Alain Giresse. Et il n'y avait pas que des poètes comme Guernot Rohr ou René Girard quand même. René, ce n'était pas un poète. Donc, c'était pas le... je trouve cette appellation et cette facilité qu'ont eu des gens, avec aucun discernement, de se permettre de dire qu'à Bordeaux, et je peux en parler, moi je ne suis pas de Bordeaux, je suis Toulousain. Les Toulousains et les Bordelais à l'époque, bon bref, mais je trouvais ça honteux. Et puis je vous dis, j'ai côtoyé que ce soit Jean-Luc, Jean-Jacques, Marie, enfin, et Philippe Lucas qui était pour moi joueur à Bordeaux, qui a joué longtemps à Bordeaux, qui a été un très très bon éducateur à Bordeaux, qui était très rigide dans son travail, qui préparait bien ses séances, bien ses équipes, et dire que c'est le club Ben, non, je trouve que c'est très facile, très léger.
Il y a un sujet que j'aimerais aborder, parce que l'émission avance vite, c'est la polémique actuellement sur les ultras. On a vu des banderoles fleurir à Nice, sur la maman de Galtier, on en a vu des pas belles, mais vraiment des pas belles. Bastia, on a vu ce qui s'est passé après le match, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas eu que la bagarre des joueurs, il y a aussi le public bastier qui a balancé des... pas mal de choses, mais en fait, ça me passe tous les dimanches, enfin tous les week-ends. Tu en penses quoi de cette mode ultra, toi ? On en a besoin, ou il faut la calmer, ou il faut vivre avec, ou qu'est-ce qu'il faut faire ?
Bah, je la calmer, oui. Les supporters sont partie inhérente d'un club de foot. Donc aujourd'hui, il y a d'autres pays qui ont eu des problèmes. Il y a eu beaucoup d'incidents. Alors je crois que c'est cette saison, la saison dernière ou en début de saison, il y a eu pas mal d'incidents, que ce soit à Nice, Marseille. Donc à un moment donné, oui, c'est un peu comme dans la société. C'est-à-dire que toute forme d'incivilité, quand elle se répète et qu'elle devient trop commune, à un moment donné, qu'on soit social, qu'on ne soit pas social, qu'on soit libéral ou pas libéral, qu'on soit, enfin bon bref, et à un moment donné, il faut la manière forte pour que ça cesse. Parce qu'à un moment donné, ça devient agressif. L'agressivité, à partir d'un certain niveau, elle devient violente. Et la violence, ça devient sur des incidents qui peuvent produire des incidents graves qui vont jusqu'à la blessure ou jusqu'à la mort de supporters ou d'un enfant ou d'un père qui vient voir un match de football. C'est-à-dire que j'ai été scout pendant 4 ans, j'ai voyagé partout en Europe. Je peux vous dire qu'il y a des stades, quand vous y allez l'après-midi dans certains pays, c'est un plaisir parce qu'il n'y a aucune crainte. Et donc, voir des débordements... est-ce que ça peut se gérer ? Oui, je pense qu'à un moment donné, ça peut se gérer.
Mais parce que quand tu suis les réseaux sociaux, quand tu vois l'après Bordeaux-Bastia, moi, je me suis mêlé au milieu. Il y a des trucs, ça fait peur. Ça fait peur parce que là, ça rentre dans des histoires de mafia, ça veut venir t'égorger. Mais c'est des trucs de fou, quoi. Alors, il y a celui qui connaît le foot, il y a celui qui aime le foot. Et j'ai l'impression que, c'est mon avis personnel, que dans les tribunes ultra, il n'y a pas beaucoup qui connaissent le football. C'est un défouloir, c'est quoi ? Et beaucoup de clubs entretiennent ces méthodes ultra.
Beaucoup de gens beaucoup plus qualifiés que moi ont parlé de ça. Donc on sait bien qu'on dit souvent que le football, c'est un peu le reflet de la société.
C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage.
Voilà, alors la société aujourd'hui, elle n'est pas simple.
Non.
La jeunesse aujourd'hui est confrontée aussi à des problèmes qui ne sont pas simples. Mais on doit arriver à pouvoir le gérer, parce qu'il faut... pas que la violence par rapport à... quels que soient les incidents. Bon, après, là, on déborde un peu, mais c'est vrai que là, on est dans des événements depuis quelques semaines où on voit des gens qui protestent sur des lois qui arrivent. Bon, tu auras raison, c'est une liberté qu'on doit respecter. Et à ça se mêlent des gens qui viennent pour tout fracasser, tout d'ordre et tout casser.
Mais ils ne viennent pas pour le foot, en fait.
Voilà. Donc, cela, c'est un autre problème. Mais c'est voilà. Et malheureusement, ça se passe dans le football ou dans des manifestations comme on voit
dans tout. En fait.
Et ça, c'est catastrophique. Oui, ça me fait peur parce que je me dis toujours, on a des enfants, des proches, Voilà, c'est terrible. Mais
toi qui as connu Toulon où c'était chaud, il y avait des supporters.
Ah oui, oui.
C'était chaud, mais ça ne passait pas comme ça, quoi.
Et même quand, mais que ce soit au foot ou au rugby, parce que quand vous allez voir un match de rugby à Mayol,
Mayol, c'est chaud.
C'était l'époque, le rugby, même c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui qu'on a.
Dans les années 80, les Bad Boys de Détroit au basket, pareil, c'était du catch tous les soirs.
Voilà. Non, mais on a changé. Et puis aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai des jeunes autour de moi là, et n'importe quelle émission, n'importe quel article, c'est commenté par tout le monde.
C'est ça.
Donc aujourd'hui, tout le monde peut parler sur tout, même sans aucune connaissance. Donc ça, c'est un peu dangereux. C'est-à-dire que nous, on fait une émission, à la fin de l'émission, il y a un mec qui va dire c'était naze, c'était nul, ils y connaissent rien. Mais le mec, parce qu'il avait envie
de cracher son fiel, quoi.
Voilà, voilà. Ouais. Donc ça, c'est. Voilà. Mais d'un autre côté aussi, il y a des gens qui font les métiers que vous faites et qui sont là pour apporter une différence.
Donc un autre point de vue.
Voilà, un autre point de vue, c'est ça qui est important. Et surtout des jeunes.
Pierre Espagnol, l'émission arrive à sa fin.
Oui.
Tu fais quoi maintenant? T'es parti les Girondins. Enfin, t'es parti ou on t'a fait partir les Girondins au mois de décembre?
Non, là, on m'a fait partir puisque j'étais dans un plan social. Voilà, donc ça a été fait correctement comme sont faits les plans sociaux. Voilà, donc là, ben là, je jardine un peu et puis je m'occupe de ma maison. Enfin, je suis chez moi. Oui, ça me fait des journées un petit peu différentes de ce que j'ai vécu pendant des années.
Tu attends quelque chose du football encore?
Oh, j'attends. Vu mon âge, ça va être compliqué.
T'as toujours la foi ou pas? La passion?
Oui,
toujours.
Oui, après, il y a des choses qu'aujourd'hui...
Avec ton âge, j'en ai 64 et je suis sur les terrains, parce que j'ai pas de terrain, mais en fait,
Pas encore.
Si, on joue.
Après, aujourd'hui, je sais à 60 ans ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai plus envie de faire, c'est tout, et de quelle manière, et avec qui et comment. Voilà, donc oui, après, je suis pas gravataire, donc je pense je peux encore rendre des services. Au demeurant de ce que me disent mes copains, même pour me faire plaisir, si je pouvais aider, j'aiderais encore. Voilà, donc, mais ça va être, je sais que ça va être très difficile. Je ne suis pas aigri du tout.
Voilà, j'allais te dire, tu as un peu l'amertume du.
Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Bah, quand on est, de toute façon, pas gardé quelque part, on est toujours un peu sur le coup, on a un peu les glandes, comme on dit.
Oui, parce que tu te dis peut-être pourquoi moi et pas un autre.
Ouais,
et
voilà.
Puis même, j'aurais pu faire plus.
Non, mais c'est vrai qu'au Girondin, Pierre, il avait sa place. Je ne le dis pas parce qu'il est là, je suis pas langue de bois, mais par rapport à certains qui sont restés, c'était le couteau suisse. On l'appelait, il allait partout, Pierre. D'autres n'y vont pas, quoi.
La seule chose que je me suis dit, et que j'ai dit d'ailleurs à mes interlocuteurs lors de mon licenciement, et qui était à la direction, que c'est monsieur Jacquemier ou... le DRH François Perrois, je peux les citer, il n'y a pas de souci, parce que les entretiens se sont bien passés, c'est qu'au-delà de leur décision, qui était leur décision, donc moi j'avais rien à dire, donc que j'ai prise. Et
sur quoi elle est établie?
Oui, non, mais c'est même pas ça, mais j'ai dit, par contre, on m'enlève d'un travail où j'aurais pu sans problème rendre service encore, puisque ce que je faisais me plaisait, et comme je dis souvent, même si je travaillais avec d'autres éducateurs et même si vous ne vous entendez pas avec tout le monde, tout le temps, mais ça, c'est la vie, mais au demeurant, ce n'était même pas le cas, j'avais la possibilité encore de travailler et de rendre des services. Voilà, c'est le seul regret que j'ai là-dessus.
Je cherche un adjoint à Bergognier.
Oui, voilà, non, mais il n'y a pas... C'était ça qui m'embêtait un petit peu, parce que
Il a un contrat.
J'ai encore un peu des ressources physiques.
Si tu me connais l'intérêt, je te fais venir à moi.
Oui, ça n'est rien. J'en ai un petit, mais n'ayez pas ça.
Mais Pierre, on va beaucoup te remercier, parce que je voulais absolument que tu viennes, parce que tu représentes vraiment le football comme moi je le vois, comme je l'aime. Et ben écoute, ben merci beaucoup. Et
la semaine prochaine,
on aura nos trois petites princesses qui vont venir nous voir. Mélie, j'ai oublié les prénoms, qu'elles étaient venues l'année dernière. Quoi.
Voilà, je vous remercie beaucoup.
Campus Bordeaux 88.1.
Et de nouveau, merci Pierre Espagnol et merci à la fine équipe, Alain, Louis et Nicolas. C'est à présent la fin de Sport Campus. Un grand merci d'avoir été à l'écoute.